Vous avez pas froid? Ça va?
Ça va pour l'instant.
Est-ce que vous pouvez décrire un peu l'air et la vue, Bernard?
Il y a Tour Eiffel qui brille, qui clignote. Il y a quoi? Il y a la Défense, ça c'est moins beau. Et puis, il paraît que c'est le Panthéon là-bas. Et puis voilà, on est sur les toits de Paris, au-dessus des toits de Paris. C'est un peu comme si on arrivait en avion, quand on arrive sur une ville en avion, c'est au moment où on va atterrir. Là, on va décoller peut-être, je sais pas.
Qu'est-ce qui dort et qu'est-ce qui ne dort pas, comme ça, à première vue, Marine?
Il y a peut-être des choses qui sont... Il y a peut-être des choses qui sont en train de s'endormir, et puis des choses qui se réveillent, en fait. J'imagine que c'est un peu une espèce de truc de vase communicant. En fait, il y a une partie de la ville qui est en train d'émerger, je pense. En tout cas, ça, on dirait presque plus le matin que le soir. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a la radio, mais moi, je trouve le paysage assez télégénique.
En fait. Cinématographique, ouais. Il faudrait pouvoir filmer tellement c'est beau, là. On a un ciel très dégagé. Et c'est vrai, alors, tu disais que peut-être une partie de la ville émergeait. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on voit pas beaucoup de... En tout cas, dans les immeubles qui sont proches, on voit que quelques fenêtres ici et là qui sont allumées. Et du coup, ça donne l'impression d'être un peu seul et privilégié au-dessus de cette ville qui s'endort. Et c'est très beau.
On est face à la Tour Eiffel. Alain, il paraît que la Tour Eiffel a sauvé... Non, que la maison de la radio a sauvé la Tour Eiffel.
Oui, parce que la Tour Eiffel avait donc été construite pour l'exposition universelle. Normalement, elle devait être démontée à l'issue de cette exposition. Et comme un émetteur a été posé en haut de cette Tour Eiffel et qu'entre deux, la radio a été créée, on a donc décidé de garder cette Tour Eiffel pour permettre la continuité des ondes radio.
Et vous êtes pompier à la maison de la radio depuis combien de temps?
Depuis 23 ans.
Et vous avez l'habitude de monter en secret sur ce toit du 22e étage pour observer la vue?
Pas en secret, pour y travailler. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler sur un site exceptionnel. Nous sommes là au 22e étage de la tour de Radio France et on a ce privilège. Nous avons en bas des touristes qui passent avec des bateaux mouches, qui passent autour de la Statue de la Liberté. Et ça, c'est fantastique. Des gens viennent du bout du monde pour visiter ce Paris et nous, on a Paris à nos pieds aujourd'hui.
Il y a qui dans la maison de la radio? Là, on va descendre tout à l'heure, mais quel genre de personnes? Des surveillants?
Il y a des surveillants, il y a des gens qui font le ménage, il y a des journalistes à France Inter, France Info, il y a divers services, divers métiers qui travaillent à la maison de la radio, il y a aussi des ouvriers, car on est sur un site en pleine réhabilitation, il y a constamment des entreprises qui travaillent jour et nuit sur le site.
Alors c'est une émission à ciel ouvert et dans le vent, ça commence, on est en direct, on s'est échappé du studio, on part de tout en haut pour aller tout en bas dans les abris. On tournera dans la maison ronde. On est suivi par ceux qui tiennent les micros. Ce soir, c'est Ibrahim Seliem et Yvan Turc.
Je veux que tout change.
Ibrahim, est-ce qu'on va pas nous perdre? Est-ce que vous avez testé toutes les ondes pour qu'on puisse se balader dans la maison de la radio?
Non, ça va bien se passer, j'espère. En tout cas, ça a marché pendant les essais.
C'est quoi le dispositif?
Le dispositif, on a placé une antenne, parce que Alain nous parlait d'antenne pour capter la radio. Nous aussi, on a mis une antenne pour capter nos micros. Et donc, on est confiant avec Yvon. On est bien.
Là, on est donc sur le toit. Avant de descendre, est-ce que vous pouvez chacun nous décrire votre décor de nuit quand vous écoutez la radio? Vous êtes où? Dans quelle position?
Dans mon lit. Toujours dans mon lit. En général, j'ai lu. Puis quand j'y arrive plus, je me dis c'est le moment de basculer doucement. Et bizarrement, c'est le moment où en fait le cerveau s'aiguise. Ça, j'ai remarqué, c'est tout s'efface. La journée s'en va, le bruit, l'agitation. Tout d'un coup, on devient disponible. C'est ça que j'aime. Alors, des fois, c'est un choix. En général, j'attends vers 1h du matin, parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant. On nous annonce que c'est les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. On joue un boulevard devant moi. puis on tient ce qu'on peut, quoi. Et puis des fois on s'endort, on se réveille avec, enfin, c'est, moi j'aime bien ça. Voilà. Mais le décor c'est le lit, ça c'est clair.
Dominique Gillot.
Oui, alors moi ce serait le lit, dans un premier temps, mais peut-être aussi, parce que je fais un truc un peu à l'américaine qui consiste à aller me servir dans mon frigo la nuit quand j'arrive pas à dormir. Donc ce serait la table, en fait, la table où je mange, avec, je sais pas, du fromage.
Marine Beccarelli. Alors le lit aussi également, et de temps en temps la voiture. Je trouve que quand on doit conduire la nuit, les longs trajets avec la radio en fond sonore, c'est très particulièrement agréable d'écouter la radio et de rester éveillé grâce à sa compagnie.
On va quitter le toit du 22e étage et on va entrer dans la radio. Les 23h et l'atelier intérieur s'ouvre à ciel ouvert, à la nuit. Bachelard parle de la radio comme d'une puissance cosmique, de la parole dans l'atmosphère. On le prend au mot et on commence dans l'air. La nuit, on s'entend respirer, on tend l'oreille, on est vigilant. Nous sommes au 22e étage pour être à hauteur des antennes. Jusqu'en 1955, les radiodiffusions cessent d'émettre autour de minuit, minuit et quart. Une sorte de couvre-feu. Les ondes laissent place au silence radio. Comme si dans une heure tout s'arrêtait, comme si la nuit rendait muet, comme si l'extinction des voix. Depuis les années 60, la radio parle et pas en l'air, elle transforme la nuit. La radio, c'est le rayonnement, ça passe à travers, ça scanne les toits, les plafonds, les maisons, les crânes. Depuis le toit ici, on voit ce qui dort et ce qui ne dort pas. L'image de départ ce soir, c'est cette idée de la radio Carbone 14, un jour, de faire une émission nocturne qui s'appelle « L'amour en direct ». On ferait se rencontrer deux personnes et à la fin de l'émission, il y aurait l'amour en direct. Cela n'a pas tout à fait marché, mais la nuit avait permis de l'imaginer. La nuit, on veut être au plus près de la vie, s'entendre, respirer les uns les autres. Bachelard ajoutait « Il faudrait écouter, ne disons pas dans une hutte, ce serait trop beau, mais dans une chambre, solitaire, à l'heure du soir, où l'on a le droit et le devoir de mettre en soi le calme, le repos. La radio a tout ce qu'il faut pour parler dans la solitude, il ne lui faut pas de visage. » Pas de visage entre nous, mais une idée de l'immensité, un face-à-face, d'une maison ronde à une maison solitaire. La radio, elle concentre la vie. À la fin des années 80, Raymond Moquel, journaliste des Nuits d'Inter, dit « Il arrivait que le studio soit si bondé que je ne puisse atteindre le micro au moment de mon flash. » On est donc plusieurs à être là, on est plusieurs devant la nuit, on a tous eu une journée avant maintenant, on est tous dans le moment d'après. Minuit ne nous rendra pas muets, la radio aimée. On accélérera parfois la marche pour mieux s'entendre respirer et ce sera un peu finalement comme de l'amour en direct. Nous allons suivre le micro. Pour une fois hors studio, notre guide c'est Alain, pompier à la maison de la radio. C'est Marine Beccarelli qui a enquêté sur la radio la nuit. Son livre s'appelle « Les nuits du bout des ondes ». Il est aux éditions de Lina. Et puis deux auditeurs nocturnes, noctambules, l'artiste plasticienne Dominique Gillot et le mystérieux Bernard. En studio, pas très loin, plus bas, nous attend le groupe Mister Croc. Alice Ramon, qui prépare avec moi l'émission, lira quelques extraits, quelques textes en chemin. Enfin, Amélie Bonin dessine, comme chaque lundi, cette fois-ci, carnet à la main. Le chemin ce soir passera par une salle de sport, une rédaction, des abris anti-atomiques pour arriver dans notre studio. C'est la radio de nuit qui va de haut en bas et ça commence maintenant avec l'évocation de quelques titres d'émissions.
Bureau des rêves perdus. Qui êtes-vous? La parole est à la nuit. La nuit n'a pas de sommeil. Les nuits décousues. Route de nuit. Service de nuit. Les routiers sont sympas. Plus courte la nuit. Votre ami de la nuit. La nuit est à nous. Nocturne. Carrefour de nuit. Ligne ouverte. Allô Macha. Allô Nathalie. Les choses de la nuit. Comme on fait sa nuit, on se couche. Studio de nuit. Barbier de nuit. Tempo. Au cœur de la nuit. Drugstore. Chlorophylle. Feedback. Les bleus de la nuit. Sur la route. Nuit noire. Nuit blanche. Micro de nuit.
Marine, avant la fin, c'était un couvre-feu minuit. Ça s'arrêtait à minuit ?
Oui, pendant longtemps, depuis donc les premières émissions régulières de radio, c'était les années 20, et jusqu'à 1955, grosso modo, à part pendant les nuits de fête de Noël et jour de l'an, il n'y avait pas d'émission après minuit. Donc minuit et quart, c'était vraiment un couvre-feu. Pendant l'immédiat, après Seconde Guerre mondiale, il y avait la Marseillaise sur les radios du monopole d'État. Et on n'avait rien, après minuit, il n'y avait pas d'émission, les gens étaient invités. Les derniers programmes, c'était souvent de la musique douce. Il y avait une émission qui s'appelait Prélude aux rêves, avec de la musique classique un peu douce, pour inviter les gens à aller dormir.
Alors on va prendre l'ascenseur, descendre une vingtaine d'étages, accompagnée par la voix d'une auditrice de 1981, quand à minuit, tout s'arrêtait.
Je suis tellement malheureuse à minuit. Et je cherche les voix. J'attends les voix et je me promène partout le long de ce poste. Vainement. Je suis malheureuse, c'est le vide. Et vous comprenez, évidemment, la France Culture n'est pas faite pour faire dormir les gens, mais elle peut donner une qualité d'assoupissement et porter un répit aux insomnies. C'est un bienfait. C'est un bienfait. Et il ne faut pas faire n'importe quoi la nuit, justement. Surtout pas. Parce qu'il y a une forme d'écoute. Quelquefois, je m'endors pendant que quelqu'un parle et je me réveille. C'est un peu spécial parce que vous parlez à quelqu'un qui dort mal et irrégulièrement. Alors, c'est pas très intéressant. Mais le minuit, c'est la pantoufle de Cendrillon. C'est épouvantable. Tous les châtiments arrivent à ce moment-là.
Alors, Alain, la maison de la radio, c'est une maison au sens plein du terme, il y a plein d'endroits de vie. Donc là, on va dans la salle de sport.
Voilà, nous avons ici à notre disposition une salle de sport pour le personnel de Radio France. J'ouvre la porte et nous rentrons.
Alors là, il y a les vélos, les haltères. Il paraît, Alain, je suis obligée de le dire, parce que vous nous avez confié juste avant l'émission que vous saviez faire des tractions sur deux doigts.
Mais normalement, vous ne deviez pas le répéter. Et alors ?
Vous savez encore le faire, alors ?
Bah, je vais voir.
Bernard, qu'est-ce que c'est les activités ? La nuit, on peut faire du sport, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on écoute la radio ?
On mange. Je marche pas mal aussi. Je dors chez moi, je bouge, je prends des bouquins, je les range. En général, je range ma bibliothèque aussi en même temps, parce que je trouve jamais ce que je cherche. Donc ça prend beaucoup de temps et je m'énerve. Mais voilà, quoi, des choses assez banales, mais c'est très circonscrit. Hein. C'est toujours dans un rayon de quelques mètres autour de l'endroit où j'écoute la radio. Donc il y a des livres, des disques.
Et c'est quoi les bonnes musiques pour la nuit ? Qu'est-ce qu'on aime écouter, par exemple, un ou deux exemples ?
J'aime beaucoup de musiques différentes, mais à cette heure-là, j'ai tendance à écouter des choses extrêmement... j'allais dire intériorisé. Si je vais écouter, ça peut être aussi bien Morton Feldman, parce que ça, c'est des plages comme ça, extrêmement, c'est une musique extrêmement du presque rien. C'est des petits éléments où on devient extrêmement attentif. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on devient brutalement. C'est une musique que dans la journée, avec le bruit, tout ça, on aurait du mal. Là, elle devient incroyablement présente. Et c'est une activité, enfin, ça me déclenche intellectuellement, émotionnellement. Enfin, c'est comme la radio, enfin, enfin, quand j'écoute pas la radio, c'est ce que j'écoute. Et le mieux, c'est si j'entends ça à la radio par surprise. Ça aussi, j'adore la radio, c'est que je tombe sur des choses que je connaissais pas. Et tout d'un coup, là, je me dis, tiens, j'ai pas perdu mon temps, quoi. Je me suis fait un ami, un musicien, ça peut être un artiste, n'importe quoi, quelqu'un qui parle de ce qu'il fait. Et c'est comme si... Il y a des gens qui aiment la vie de la nuit, mais qui vont dans les bars, qui parlent aux gens, qui... Je comprends, mais moi, je préfère ça. Parce que c'est... Je crois que le... Finalement, le contact est encore plus intime, plus fort. Parce que je me souviens de nuit, encore aujourd'hui, enfin, où j'ai entendu des choses auxquelles je pense régulièrement.
Par exemple ?
Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une émission que je ne connaissais pas, qui de 78, qui est rediffusée, qui s'appelait Les Mauvais Coucheurs. Je trouvais ça formidable comme émission pour la nuit. Et c'était, je l'ai pris en cours, et puis j'entends un morceau de Bud Powell, qui est un musicien que j'aime beaucoup, un musicien de jazz. Et tout d'un coup, je suis dans l'état où on est, c'était 3h du matin, je ne savais pas ce que c'était cette émission, dans l'état de semi-veille, j'ai entendu ce morceau que je connais par cœur, comme jamais je l'avais entendu. Tout d'un coup, j'ai dit, mais ce type est génial, je le savais. Hein. Mais tout d'un coup, ça a réactivé, c'est comme si c'était la première fois que je l'entendais. Et c'était Alain Cournot, le cinéaste, qui était tout jeune à l'époque, qui avait déjà fait quelques films, mais qui parlait d'un voyage qu'il avait fait à New York, tout début des années 60, quand ce qu'on appelait le free jazz commençait à naître et qu'il a rencontré, il n'avait pas un sou, on lui avait promis de l'argent pour faire un film qu'il n'a pas réussi à faire, mais il dormait chez les musiciens qu'il aurait dû filmer, mais il n'avait plus un sou, c'est lui qui dormait chez des gens encore plus pauvres que lui, et c'était Cecil Taylor, et c'était Sun Ra, et c'était tous ces gens-là. Bud Powell, qu'il a vu pratiquement dans une espèce de bouge à Brooklyn, 3 semaines avant sa mort, avec des rats qui passaient sur lui. Enfin, c'était assez... Voilà, puis il a passé aussi un disque de Taylor, de Cecil Taylor aussi, que j'avais plus entendu depuis très longtemps. Et pareil, ça a été, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Donc voilà, ça se passe la nuit. À 4h de l'après-midi, ça n'aurait pas marché. Je ne l'aurais pas entendu. Enfin, je l'aurais entendu, mais j'aurais écouté, mais je ne l'aurais pas entendu.
Vous pouvez tester, puisque vous êtes à côté, un peu de boxe. Allez-y.
J'ai jamais fait ça.
C'est pas mal.
Ah, c'est un bon début.
Nous, on a choisi Joy Division, Dance with the Radio, comme sono de salle de sport. Peut-être se rapprocher un peu. Dominique Gillot, vous voulez-vous tenter les haltères ?
Elles ont l'air particulièrement lourdes. Je suis épatée de... J'ai imaginé que les gens de radio puissent... Mais en même temps, ça a l'air d'être tellement utilisé, cette salle.
Non, mais il y a des gens de radio musclés.
Mais j'en doute pas, mais par contre, cette salle a quand même l'air particulièrement inutilisée, hein. Mais je veux bien tenter de soulever les haltères. Mais
on va peut-être pas prendre trop de risques, mais...
Parce qu'elles sont particulièrement impressionnantes, c'est vrai.
Marine Beccarelli, la radio de nuit, au tout départ, ça a été imaginé pour les gens qui vivent, qui travaillent la nuit, comme les routiers, les chauffeurs.
Oui. La première vraie émission d'après minuit, c'était l'émission Route de nuit sur Paris Inter, en salle de France Inter. Et donc c'était clairement imaginé pour les personnes qui étaient au volant, donc des automobilistes et les routiers. C'était permis par l'apparition de l'autoradio qui est arrivée au début des années 50. Et donc l'idée, c'était de tenir compagnie à ces personnes qui étaient obligées de rester éveillées, également pour les boulangers et les travailleurs de nuit. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ces personnes-là qui étaient à l'écoute. Et donc on a diversifié l'offre de programmes. Au début, c'était vraiment une radio de service pour tenir compagnie.
Et comment on fait pour ne pas que les gens s'endorment au volant ? Qu'est-ce qu'on passe comme genre de musique ?
Ça a été très varié. Alors dans ces émissions Route de nuit, ça peut être du jazz, ça peut être des choses beaucoup plus de variété, des choses un peu dynamiques, justement pour pas que les gens s'endorment, avec une personne qui faisait des annonces, donc qui annonçait des disques avec un entrain, avec une bonne humeur et sans cesse, enfin en rappelant souvent que l'auditeur, qu'ils étaient peu à écouter ces programmes, mais qu'il fallait soutenir mutuellement. Mais ça pouvait être toutes sortes de musiques. Après, plus tard, on a eu des musiques qui, comme l'évoquait tout à l'heure Gilles, je crois, ça peut être des musiques qui passent pas trop le reste de la journée, des musiciens moins connus qu'on va inviter la journée, à qui on va laisser la place comme un espèce de banc d'essai pour ces jeunes artistes.
Dominique Gillot, est-ce que vous faites la route avec la radio la nuit ?
Pas tellement la route en fait, c'est quelque chose de très fixe pour moi. Enfin, ça m'est arrivé, je pense, de marcher dans les rues de Paris avec la radio dans les oreilles, parce qu'on podcast. Donc je me souviens de trajets piétons, mais pas de route comme on peut imaginer la route, c'est-à-dire tailler la route avec le bitume qui défile. Oui, quelque chose de plus calme en fait, et qui va bien avec ce qui se passe à la radio la nuit, enfin en tout cas moi ce que j'écoute à la radio la nuit. Mais sinon non, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur en fait pour moi. Et je parle de mon intérieur en fait. Et oui, non, c'est voilà, classiquement insomnie. Je sors pas quand j'ai des insomnies. Mon premier réflexe, c'est peut-être d'allumer la radio en fait. Parce que c'est hyper. C'est génial en fait d'avoir comme quelqu'un qu'on n'a pas à réveiller, qui est juste là, qui est là tout le temps. On ne sait jamais trop ce que cette personne va raconter. Donc il y a de la surprise, et à la fois ça produit, enfin dans ces moments un peu de semi-conscience, c'est-à-dire que c'est ni endormi ni réveillé, c'est entre les deux, ou même pas entre les deux, c'est un autre, un ailleurs, enfin, encore un troisième état. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre qui pourrait me procurer ça que la radio à ce moment précis. C'est mon besoin absolu à ce moment-là. Et c'est surtout des voix d'ailleurs, je cherche surtout des voix, des conversations, et puis c'est ce plaisir de la conversation dans laquelle on peut être inactif, c'est-à-dire on peut être complètement spectateur, enfin auditeur plutôt pour le coup. On peut laisser la conversation se dérouler, ce qui n'est pas un truc qu'on peut faire facilement en société. Alors la radio, ça offre ce confort-là.
Alain, on va peut-être sortir de la salle de sport, descendre les escaliers, et puis en attendant, on va écouter une petite histoire de cette émission Route de nuit.
Je me souviens d'une anecdote que j'ai toujours racontée, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Il y a eu un soir un appel, c'était au tout début, un appel de Corrèze ou de l'Aveyron, je ne sais plus très bien, et un homme affolé m'a informé que sa femme allait accoucher, et m'a demandé ce qu'il devait faire. Il était dans un village perdu, c'était l'hiver. Alors immédiatement, tous les collaborateurs de l'émission Route de nuit et moi-même avons consulté tous les annuaires dont on disposait, et dans le quart d'heure qui a suivi, on a pu rappeler ce monsieur, lui dire où était la clinique la plus proche, etc. Et tout s'est très bien passé. Et pendant 5 ans, chaque année, ce monsieur m'a donné des nouvelles de l'enfant qui était né ce soir-là. C'est un joli souvenir, non ?
On va arriver à l'Agora, et nous avons ici l'agence du LCL qui est ouvert aussi la journée.
Notre cafétéria.
Du personnel, avec cette verrière au 7e étage de la Petite Couronne, avec une vue exceptionnelle sur la tour de Radio France.
Donc là, on était tout en haut tout à l'heure, c'est quoi, 68 mètres,
68
c'est ça
mètres de haut, oui.
Il paraît que le GIGN l'a descendu en rappel.
Le GIGN a descendu la tour en rappel pour un téléthon dans les années 94, je crois.
Vous l'avez descendu, Alain ?
J'en ai profité, oui. Oui, je l'ai descendu, oui.
Et alors, ça fait quoi quand on descend en rappel, 68 mètres ?
Bah, ça fait une bonne impression, surtout quand c'est la première fois qu'on descend en rappel. Mais bon, c'était trop tentant pour moi. Parce qu'en tant qu'ancien pompier de Paris, c'est toujours tentant.
Là, c'est assez désert, c'est assez vide. On est au milieu de... Donc au centre de la maison de la radio. Et Marine Beccarelli disait tout à l'heure, petit à petit, on a pensé à faire de la radio, pas que pour les routiers, pas que pour les chauffeurs. Et puis il y en a un qui a eu une idée, c'est l'idée du Pop Club, c'est Roland Dordain. Et Alice Ramon va lire un petit témoignage où il raconte justement à quel moment il a eu cette idée-là.
Un soir, en quittant le bureau assez tard, je traverse le grand hall de la maison de la radio, qui est alors un endroit désert et assez sinistre. Et je me dis que peut-être la radio devrait se donner aussi pour tâche d'animer sa propre maison. Le lendemain, j'ai trouvé l'idée. Faire réaliser une émission de fin de soirée qui serait transmise en direct d'un des bars qui se trouvait alors aux extrémités du fameux Grand Hall. J'espère ainsi créer un va-et-vient de visiteurs qui le sortiraient de sa torpeur. L'émission devrait commencer un peu avant la fin des spectacles. Ainsi, les soirs de première, comédiens, chanteurs et journalistes se retrouveraient chez nous. Jacques Tournier approuve et ajoute. Pour que ce soit in, il faut que la musique soit directement importée de Londres. Il faut qu'elle soit pop. Et ensemble, nous nous sommes écriés. On appellera ça le pop club.
4 octobre 1965, au bar noir de la maison de la radio, Marine Beccarelli.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la création d'une émission qui va durer 40 ans. Le Pop Club, animé par José Arthur, donc qui sera d'abord en direct depuis le bar noir de la maison de la radio, puis après qui va être à l'extérieur dans le restaurant Beaubourg, et puis qui va terminer sa carrière au Fouquet's. Et donc, c'est là une émission conviviale où les artistes, les intellectuels sont invités après l'heure des spectacles à venir se détendre autour d'un verre sur les sofas du bar studio et converser pendant 2 heures avec José Arthur, avec des musiciens qui sont invités à jouer aussi en direct leur musique.
Dominique Gillot, on est un peu seul là au milieu de la radio, on va avancer. Est-ce que ça a un lien avec la solitude, l'écoute de la radio la nuit ?
Ben oui, complètement, ouais. C'est... En fait, justement, je pense que c'est vraiment quelque chose pour meubler la solitude. C'est-à-dire que ben, quand on peut pas dormir et qu'on peut évidemment réveiller personne, c'est vraiment une manière de s'accompagner, d'accompagner un état qui n'est pas un état de tension extrême, mais... Oui, non, je pense que la solitude y est évidemment liée. Si on n'était pas seul, on écouterait peut-être moins la radio la nuit. En fait, je veux dire d'ailleurs. Mais oui.
Et pourquoi on s'attache à une voix ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à une voix la nuit ?
C'est pas une voix en ce qui me concerne. Ce serait plutôt des voix. Et peut-être même, ça peut paraître étrange, mais n'importe laquelle. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc de sérendipité, de hasard. J'allume la radio et je pense que je peux tomber sur n'importe quelle émission qui passerait la nuit où ça parle. Ça me comble en fait. C'est ce moment où c'est ça qu'il me faudrait. Une voix, plusieurs voix, hein. Ça peut être aussi un des... Mais je sais que si c'est de la musique, je pourrais avoir tendance à changer en fait. Alors je suis réglée sur des radios qui diffusent plutôt de la voix. Je vais le dire, hein, j'écoute plutôt France Culture la nuit.
Et à quel moment on s'endort ? Est-ce que quand on se réveille, on est encore hanté par une voix ou un son, ou un bruit du moment où on s'est endormi ?
Oui, parce que clairement, ce qui est assez génial, c'est que ça fonctionne comme un rêve. C'est comme un rêve qu'on n'aurait pas produit avec son propre imaginaire. C'est des imaginaires qui ne nous appartiennent pas, mais qui viennent comme ça activer d'autres zones, d'autres imaginaires dans le nôtre propre. Et du coup, ouais, c'est vraiment comme un espèce de rêve. Et comme un rêve, ça peut nous accompagner le reste de la journée, ouais. C'est évidemment. Et puis parfois, on peut avoir envie de retrouver l'émission qu'on a écoutée la nuit, aussi de la réactiver le jour. Enfin, voilà, ça accompagne, évidemment.
Alors là, on est dans l'ascenseur. On va monter au 4e étage. Et on va aller vers France Info, normalement... C'est pas complètement désert.
France Info, ça dort jamais. C'est non-stop, de toute façon. Donc ce serait comme en plein jour.
Est-ce que vous avez, Alain, parfois trouvé des choses la nuit ? Est-ce qu'en poussant une porte comme ça, vous avez découvert une chose particulière ? Est-ce que vous avez un souvenir de nuit ?
Des chats dans les sous-sols de Radio France. Ça est déjà arrivé. Un jour, des fuites d'eau, parfois, ça peut arriver aussi.
Des choses un peu plus croustillantes.
Un jour, un salarié de Radio France qui était coincé sous la barre fixe de la salle de sport.
Ah, c'est moins drôle.
Bah oui, bah heureusement qu'on est passé à ce moment-là, on l'a décroché. Ça... Sinon, ça se passait pas très bien pour lui.
Donc là, on avance dans les couloirs de France Info. Voilà. Il est 23h30 et 50. Ah, voilà, on arrive.
Nous arrivons à la régie principale, ainsi que le bocal, où le monsieur est en relation avec tous les reporters et les agences France Presse et l'AFP.
Alors là, sur le mur, on peut voir l'heure qu'il est à New York, 17h31, l'heure qu'il est à Rio de Janeiro, 18h31, Moscou, 1h31, Pékin, 5h31. Ça va ?
Oui, bonsoir.
Je vous dérange pas trop ?
Non, ça ira.
Est-ce que vous pouvez décrire un peu votre décor de nuit ?
Oui, disons qu'on a vu sur la tour Eiffel quand on se retourne, vu sur la Seine également et sur les immeubles éclairés encore à cette heure-là. Donc c'est quand même plutôt sympa comme vue. Hein.
Est-ce que c'est un autre temps, un autre rythme à cette heure-là ?
La nuit, oui, bien sûr. Là, c'est encore assez speed, assez rapide, mais après, c'est un petit peu plus calme. Ça se passe de manière plus cool. Tout dépend de l'actualité, en fait, puisqu'on est toujours sous le coup de l'actualité. Hein.
Est-ce qu'il y a un autre rapport, justement, à ce qui se passe, à ce qui arrive ? Est-ce qu'on a un autre lien avec l'actualité ? Est-ce qu'on est aussi proche que la journée ?
Oui, je pense que là, il n'y a vraiment pas de différence. L'actualité, ça implique une réaction ultra rapide, surtout quand on travaille pour une chaîne d'information continue comme France Info. Donc, il faut réagir tout de suite. On n'a pas le temps de se poser trop de questions. Il faut partir au quart de tour.
Vous êtes là jusqu'à quelle heure ?
Là, je suis là jusqu'à 3h-4h du matin. Toujours, je suis tributaire de l'actualité, ce qui se passe dans le monde et partout en France.
Par exemple, là, il se passe beaucoup de choses ou c'est plutôt tranquille ?
Là, c'est plutôt une soirée relativement calme.
Vous êtes combien, là ? Un, deux ?
Là, dans la salle de rédaction, il reste encore un rédacteur en chef, deux rédacteurs en chef. Le rédacteur en chef qui s'occupe de la tranche du soir jusqu'à minuit. Moi qui suis là jusqu'à... 3h-4h du matin, et puis Philippe qui est au bocal, qui s'occupe de réceptionner les sons qui arrivent d'un peu partout.
Vous n'êtes jamais endormi ?
Non, jamais.
Et ça vous arrive de vous tourner pour regarder la Seine, pour regarder les arbres, pour regarder la vue ?
En général, j'ai pas trop le temps. je jette un coup d'œil avant de partir sur le coup de 4h du matin, mais dans la soirée, la preuve là, c'est que mon bureau tourne le dos à la Seine, donc j'ai pas trop le temps de m'amuser à regarder, à contempler la vue qui est quand même sordide.
Vous avez le souvenir d'une nuit particulière ?
Non, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Là encore, on est tributaire de ce qui peut se passer dans le monde. C'est vraiment l'actualité qui prime.
Est-ce que votre esprit vagabonde entre deux informations ?
Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que là, c'est un timing qui est quand même très minuté. Il faut que la matinale soit prête à 3h du matin quand on fait le point avec la nouvelle équipe de rédacteurs en chef qui arrive. On est obligé d'aller très vite et on a très peu de temps pour vagabonder ou penser à autre chose.
Et comment vous décririez l'atmosphère à la radio ? Là, on est en train de la traverser. Elle est assez déserte, à part des îlots comme ça d'activités. Quel plaisir on peut avoir à justement vivre cette radio un peu tout seul à ce moment-là.
Disons qu'on a quand même un rapport aux autres un peu différent la nuit, les relations, que ce soit avec les reporters, parce qu'il y a quand même des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent encore à cette heure-là. Donc je crois qu'on a un rapport plus... On prend davantage le temps, même si le rythme reste soutenu, on prend le temps de parler avec les gens, d'échanger. On a moins la pression de la journée quand même.
Alors, on va vous laisser travailler dos à la Seine. Nous, on va se tourner vers la Seine. On est donc en direct au 4e étage. Dans notre studio, pas très loin, il y a Mr Croc, ils sont 5. Ils ont des paroles comme « Ce soir, la nuit m'observe, mais en pièces détachées ». Alors le temps que nous montions à nouveau vers le 10e étage, « Ce soir, la nuit nous observe », et elle est chantée par Mr Croc.
Bonsoir, nous sommes Mr Croc, tout seul au studio 108, en direct dans l'atelier intérieur d'Aurélie Charron. Sur France Culture, ce soir, la lune nous observe.
mais en pièces détachées. J'ai peur des coups en l'air, des chiens désenragés.
Ça sur la marche, je vais vous éclairer. Voilà.
J'ai besoin d'une petite lampe de poche, Alain.
Toujours. C'est nécessaire ici.
Voilà. Alors là, on est sur le toit, un autre toit au 10e étage.
De la porte B.
Et voilà. Alors, on va s'avancer un tout petit peu par là.
D'accord.
En faisant attention parce que c'est vraiment très noir et
voilà,
on voit pas exactement. Vous pouvez me suivre. On marche là, attention. Alors là, il y a une image assez sidérante qui a existé sur ce toit, Alain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Dionne Warwick, la chanteuse américaine qui a dansé ici.
Qui a chanté en 1964. Voilà, donc la particularité, c'est que le toit était vide. puis bon, c'était quand même exceptionnel, une chanteuse sur le toit de la maison de la radio.
On peut encore voir une vidéo où elle est sur ce toit, exactement ici. Et puis il y a des hommes en costume cravate sur des chaises, une espèce de chorégraphie comme ça autour d'elle.
On a en arrière-plan, et la particularité aussi, j'ai revu ce clip il y a peu, c'est qu'on ne voit que la cheminée des fronts de scène, les tours en face de la maison de la radio n'existaient pas. On ne voit que la cheminée du chauffage, et en 64.
Est-ce que vous pouvez décrire un tout petit peu la vue qu'on a ? On a changé de côté, Marine Bucarelli.
Alors là, on a la tour Eiffel qui est derrière nous sur la droite, et j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il y a en face. Là.
Le Mont Valérien.
Le Mont Valérien. C'est plus, il y a moins de lumière.
C'est, la Défense.
Ouais, voilà. Là, c'est plutôt l'extérieur de Paris.
On peut apercevoir quelques intérieurs qui sont éclairés, quelques salons en face.
Oui.
Quelques télés allumées. Est-ce que vous avez déjà écouté ces émissions nocturnes où justement on entre dans la vie des gens qui appellent ?
Oui, je pense que adolescente, je pense que c'était mon premier rapport à la radio la nuit. C'est évidemment ce qu'on appelle la libre antenne, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas très glorieux parce que ça m'est arrivé de réécouter ça récemment. Un projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez. Enfin, j'en avais un souvenir beaucoup plus émouvant que ce à quoi j'ai assisté dernièrement. Voilà, mais oui, c'est. En tout cas, c'est très loin de ce que je recherche maintenant dans la radio la nuit, je dois dire.
Bernard, est-ce que les auditeurs qui parlent à la radio, vous avez écouté la nuit parfois ?
Non. Ça, c'est jamais. Je sais pas, en général, ça m'ennuie, ces histoires. Ces histoires de couple, de machin, là, pour le coup, ça m'endort. Mais non, j'ai jamais aimé ça.
Jamais. Contre l'ennui, j'évoquais tout à l'heure, au début de l'émission, Marine Beccarelli, ces idées parfois des radios pirates, puis des radios libres, début des années 80, justement, pour occuper la nuit. Comme cette idée de l'amour en direct, de Carbone 14, où tout à coup on allait peut-être entendre de l'amour en direct. Et il y a une autre émission assez marrante qui s'appelait Poubelle Night.
Oui, alors Poubelle Night, c'était toujours donc, sur Carbone 14, qui était une radio libre créée en 81 suite à la fin du monopole d'État sur la radiodiffusion. Et donc Carbone 14 était spécialisé dans la subversion, les choses un petit peu transgressives et surtout la nuit. Et Poubelle Night, c'était une émission animée par Super Nana, qui ensuite, par la suite, a été sur Skyrock. Et Super Nana, donc là c'était la libre antenne, donc la libre antenne qui est apparue au milieu des années 70. La première station en fait à avoir fait une émission libre antenne, c'était pas Macha Béranger, c'était pas France Inter avec Macha Béranger donc, qui a commencé en 77, mais c'était Europe 1 avec Gonzague Saint-Brie deux ans plus tôt en 75. Et donc ça a existé depuis le milieu des années 70. Et Carbone 14 a un petit peu détourné le concept. Donc entre 81 et 83, là l'idée c'était qu'effectivement l'antenne était ouverte et les gens étaient appelés à invités à téléphoner pour raconter leur vie, mais si c'était ennuyeux, Super Nana ne se gênait pas pour leur accrocher au nez, voire les insulter. C'était voilà, une espèce de jeu avec l'auditeur dans la provocation.
Peut-être on va lire Alice Ramon le générique de Poubelle Night, parce que c'était quand même assez drôle.
La mort, le suicide, la perversion, la délation, le masochisme, la scatologie et la connerie, téléphonez-nous. 5328. Poubelle Night, une émission horrible, une émission pleine de haine, une émission pleine de cul, une émission pleine d'amour. 5328. PD, toxico, alcoolo, seul, très seul, sans femme, sans chien, sans rien. 545, 5328.
5328 donc.
Oui, alors là c'est vraiment effectivement Super Nana et Carbone 14 se moquent un peu de ces émissions où c'est surtout les gens qui sont un peu seuls et qui ont des problèmes, qui sont un peu perdus dans leur vie, mais pas uniquement, parce que moi j'ai beaucoup étudié donc les appels, notamment de l'émission de Macha Béranger. Bon, c'est vrai que c'est il faut être quand même un petit peu, au moins un petit peu déprimé ou avoir un problème pour appeler la nuit la radio et ne pouvoir en parler à personne d'autre. Mais donc il y a le cliché de l'alcoolo, du toxico, du mec un peu paumé qui a des problèmes. Et là, clairement, Super Nana Carbone 14 se moque de ce truc-là en détournant un peu le concept. Mais malgré tout, ces émissions de Libre Antenne, même si à écouter comme ça d'une oreille extérieure, c'est pas les émissions les plus passionnantes certainement, malgré tout ça nous indique des choses sur une certaine société de cette époque, ou en tout cas un certain état d'esprit, ou une certaine histoire aussi du mal-être et d'une sensibilité de cette frange de la population qui n'a que ce moyen-là que d'appeler la radio pour se confier la nuit. C'est quand même assez intéressant en fait d'écouter ces appels d'auditeurs.
Ça a aussi incité à la radio ici à être un peu plus inventif, ou en tout cas à imaginer des choses, puisqu'il se passait ces choses-là sur ces radios libres, à se dire il faut que la nuit ce soit un territoire intime et aussi créatif.
Oui, alors la nuit avait commencé à être un territoire de l'intime avant l'arrivée des radios pirates et des radios libres. Mais c'est vrai que les radios pirates et les radios libres ont beaucoup utilisé la nuit, notamment parce que c'était donc les gens qui animaient ces émissions de radios pirates avaient souvent des professions, donc ils étaient occupés la journée. Puis aussi la nuit, c'était la clandestinité, comme c'était interdit, bon, c'était plus facile d'émettre la nuit. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont créées dans la transgression, donc Carbone 14 notamment, qui est un peu un symbole de ça. Et du coup, ça a aussi influencé les stations de radio traditionnelles par la suite, qui se sont un peu plus dévergondées, si on peut dire, la nuit. Ça a donné lieu, par exemple, sur France Inter, dans les années 80, à une émission de lecture érotique produite par Daniel Mermet. Daniel Mermet et Paula Jacques. Alors là, l'émission a duré que 3 semaines, je crois, parce que finalement, la direction a décidé d'arrêter.
Des textes érotiques entre 2h et 3h du matin.
Oui.
Donc, pourtant, c'était assez tard dans la nuit.
Oui, c'était rien de bien scandaleux. C'était quand même des textes érotiques de grands noms de la littérature. Mais malgré tout, ça restait... Ça a été interrompu au bout de 3 semaines, mais après Daniel Mermet a pu reprendre son concept même la journée, 2 ou 3 ans plus tard, l'été 86, avec une émission qui s'appelait La Coulée Douce, où là c'était aussi une émission érotique. Enfin, finalement ça a passé, mais ça a mis un petit peu de temps aussi à arriver sur les chaînes plus traditionnelles.
Bernard, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez entendue une nuit, même si c'était peut-être pas Poubelle Night, mais...
Je sais pas, je suis pris de court, hein. Des choses folles. Hein. Non mais j'ai entendu, non c'est un truc qui me vient à l'idée, comme ça je m'y attendais pas, c'est André Monroy. Bon, alors je me disais, c'est pas un auteur que j'avais vraiment lu avec passion, mais c'était un formidable raconteur d'histoire, et il racontait les vies des grands écrivains d'Alexandre Dumas. Il y avait une émission formidable sur... Oui, mais c'était en public, en plus, ça devait être, je sais pas, la Sorbonne, je ne sais où. Et il était extraordinairement drôle. C'était aussi bien Alphonse Allé que... Oui, Alexandre Dumas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Chopin et Georges Sand. Il y a eu... Et c'était... J'étais extrêmement surpris. Et je me bidonnais assez sérieusement. C'est pas extraordinaire, mais ça m'avait marqué parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce monsieur... dont j'avais une image un peu comme ça d'une littérature bourgeoise bien pépère, il était extraordinairement brillant quoi, à l'oral. Donc c'était parfait pour la radio.
De très haut, on va peut-être aller très bas, Alain.
Oui.
Et juste une question avant de descendre, pourquoi la maison de la radio a été construite ici, à cet endroit-là, dans Paris?
Alors déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme vous avez pu le remarquer, c'est qu'il n'y a pas de ligne de métro à proximité. Justement, donc pour construire, pour éviter les vibrations pour les ondes, pour les radios. La deuxième, c'était la proximité donc de l'émetteur sur la tour Eiffel. Et la troisième, au bord de Seine. Et aussi, surtout, c'est que c'était un terrain qui était libre ici. Puisque avant, on a eu une usine à gaz qui est ensuite devenue un terrain de sport. Donc il y avait une grande surface, c'était un terrain de sport. Bon, alors ça, au début, ça a créé quelques polémiques avec les riverains. Parce qu'il est évident qu'on leur supprimait leur terrain de sport. Mais c'est pour ces trois raisons que ce site a été choisi.
Alors on va descendre maintenant au sous-sol vers les abris anti-atomiques, et accompagné de la voix de Macha.
Eh bien, je suis toujours très curieusement impatiente de ce que vous allez me raconter, me faire découvrir de vous, sur vous et à propos de vous au 45 24 7000. Allô.
Allô, bonsoir Macha. ça.
Bonsoir, quel est votre prénom?
Eh bien, je m'appelle Sébastien.
Sébastien,
j'ai 17 ans.
Oui. Vous avez 17 ans?
Oui.
Oui,
vous avez... pour vous faire partager, enfin pas pour vous faire partager, je crois qu'on a la même passion.
Oui.
Pour vous parler de l'animation radio.
Ah, ça, on va pouvoir en parler pendant une semaine, alors.
Ah, on pourra en parler pendant des heures, en effet, oui.
Oui.
Ce qu'il y a de bizarre, c'est que je suis quelqu'un de très timide.
Oui.
Dans la vie de tous les jours, et dès que je suis en face d'un micro, je peux parler des heures, tenir l'antenne.
Ah bon, et dans la vie?
Et dans la vie, je suis très timide, très réservé.
Alors moi, je vais vous faire une confidence,
oui.
Je suis encore plus bavarde hors antenne.
Qu'est-ce que ça doit être?
Et, enfin, je veux dire, communicative,
oui.
Disons, je suis plus réservée à l'antenne, mm-hmm. par rapport à mon vrai caractère,
oui.
Mais j'ai toujours parlé à tout le monde, n'importe où, n'importe quel endroit, et toujours fait des sourires, toujours eu le contact. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça à la radio, parce que j'avais ça dans la vie. Mais c'est vrai que parfois, c'est comme les comédiens, ils sont très timides, ils font du théâtre parce que ça les libère. Et moi, ça m'a appris à me, comment dirais-je, à plus me poser. Hein. Mais bon, maintenant, au bout de quelques années, je suis absolument pratiquement la même à l'antenne que dans la vie. Oui, oui.
Attends les autres qui sont en train de descendre et on va aller très très bas dans les abris anti-atomiques.
Voilà, donc qui sont désaffectés maintenant pour la plupart, mais il en reste encore un ou deux à notre disposition.
Et qui datent de ?
De la construction de la maison. Donc la maison a été inaugurée en 63 et le début des travaux, la première pierre en 54.
Et pourquoi on a construit des abris anti-atomiques à ce moment-là ?
C'était en pleine période de guerre froide, après-guerre. Donc il y avait ces deux blocs qui s'opposaient, donc on avait prévu donc, de construire ces abris en cas de conflit. Alors là, nous descendons au moins un. Voilà. Avec une partie du chantier qui est sur notre droite.
On peut entrer dans un des abris?
Oui, on va y rentrer. Voilà.
Alors là, on est dans des couloirs avec des fils partout.
Chemin de câble, des gaines. La maison est en travaux, je vous le rappelle. Voilà, nous arrivons dans l'abri numéro 1. Il y en avait 14 en tout. Avec les portes blindées. Voilà, on y va, on rentre.
Encore une clé.
Encore une deuxième porte. Donc cet abri est maintenant sert à stocker les gilets pare-balles ainsi que les casques pour les reporters qui s'en vont en mission et les masques et les filtres pour les missions sur les conflits partout dans le monde. Gilets pare-balles, voilà. Donc cet abri sert à la sécurité intérieure du bâtiment.
Voilà. Comme là, on est au cœur de la maison, tout au fond, au cœur de la nuit, on va lire un petit texte de Calafert.
Je garde l'impression de ne pas exister pleinement pendant le jour, et la nuit m'est favorable. Le soir venu, pour moi, la vie commence. Il est des êtres qui ne savent pas se mettre au diapason de la nuit. La nuit ne se livre pas d'elle-même. Il faut la pénétrer, la décortiquer, la violer. Il faut lui arracher les lambeaux qui la recouvrent. À l'heure où les hommes s'endorment, une seconde catégorie d'hommes se montre à nu. La nuit, depuis longtemps, les a façonnés à sa manière qui est brutale, les a pétris, faits et refaits. Je suis de ceux-là, je suis de ceux qui ne peuvent dormir tant que vit la nuit. Mes souvenirs et mes désirs les plus profonds reviennent, affluent. Je veille, les yeux ouverts sur la nuit qui s'accroche au ciel. J'éprouve la pénible et agréable sensation, la lâche sensation, comme au moment de l'anesthésie, de me dédoubler. Je me fixe au cœur de la nuit.
Alain, vous allez être là toute la nuit ?
Oui, jusqu'à demain matin, 8 h.
Alors on va se diriger ensemble vers notre studio, le studio 108. Et puis le groupe Mr Croc nous attend et va commencer à jouer tant qu'on s'échappe des abris anti-atomiques.
Go, but that you wish when this road turned bold. But that you say exceptions go, just but that you say exceptions go.
On vient de rejoindre Mr Croc, on est en studio, ça va? Vous avez été un peu seul pendant une heure, désolé. Mais voilà, l'atelier intérieur a parcouru la nuit, a commencé sur le toit, fini à son endroit en studio. Je dis merci à Alice Ramon à la préparation, Lionel Quentin pour une réalisation en forme d'acrobatie entre là-bas et ici. Comme l'écrit Bachelard dans Le droit de rêver, la radio doit dire le soir aux âmes malheureuses, aux âmes lourdes, il s'agit de ne plus dormir sur terre, il s'agit de rentrer dans le monde nocturne que tu vas choisir. Merci à Ibrahim Seliem et Yvan Turc de nous avoir suivis à la trace avec les micros. Merci en studio à Bruno Gagnère et Clément Berman. Merci à Guillaume Rialan, complice de cette déambulation. Il est minuit. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure, voilà, c'est l'heure des nuits puisque la radio ne s'arrête plus à minuit.